Bonjour et bienvenue sur les podcasts de Ciel et Espace, podcast en partenariat avec le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique. On parle d'Herschel, du télescope spatial Herschel, en compagnie de Sacha Oni. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes post-doctorant néerlandais au service d'astrophysique du CEA. Vous travaillez sur Herschel et on va parler avec vous de ce qu'il y a dans le milieu interstellaire, plus exactement entre les étoiles. Alors, première chose qui est nécessairement évidente, c'est que l'espace entre les étoiles n'est pas vide. Alors, pas vide, mais pas plein non plus.
Non, c'est tout à fait vrai. Il y a de matière entre les étoiles, et je crois que de temps en temps, on l'observe aussi, parce qu'il y a de belles images de nébuleux autour des étoiles, et là, on voit quand même qu'il y a de matière autour. Mais en fait, chaque galaxie est remplie par un gaz, mais un presque vide. Et juste pour le mettre dans son cadre, cette presque vide, il y a plus ou moins une particule par chaque centimètre cubique. Et c'est beaucoup plus faible qu'on peut faire comme vide sur Terre. C'est plus ou moins 100 fois plus de vide qu'on peut faire sur Terre dans les meilleures conditions laboratoires. Mais quand même, comme l'espace entre les étoiles est si énorme, c'est quand même très, très, très important. En fait, si on ramasse toute la matière entre les étoiles dans une galaxie, il y a beaucoup plus de matière entre les étoiles que dans les étoiles mêmes.
Ah, il y a plus de matière oui. entre les étoiles que dans les étoiles elles-mêmes.
Oui.
Alors, de quoi est composée cette matière, comme vous dites, c'est quoi? C'est du gaz, c'est de la poussière, c'est autre chose?
La plupart de matière, c'est du gaz, en fait c'est du hydrogène, c'est la matière de base de tout l'univers, c'est l'hydrogène, dans la matière baryonique, mais il y a quelques composants plus complexes de solides, de poussière, et en fait cette poussière est très, très, très important parce que le petit grain de poussière, il interagit très, très fort avec la lumière. Et c'est pour ça qu'il joue un rôle très, très important pour l'énergie de balance thermique d'une galaxie.
Et pourtant, c'est pas beaucoup. Hein. Quand on regarde les chiffres, c'est quoi? C'est 99% de gaz et 1% seulement
oui,
de poussière.
Oui, en fait, si on fait le calcul, dans chaque centimètre cubique, on a un atome. Et dans chaque 10 ou 100 mètres cubiques, on a un grain de poussière. Ça veut dire que c'est pas beaucoup. Mais c'est eux quand même qui font beaucoup.
Il faut quand même que vous m'expliquiez ce que vous appelez poussière, parce que la poussière, c'est la ménagère fait la poussière, on enlève la poussière, ça peut être plein de choses différentes. C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez de la poussière?
En fait, ça c'est aussi de poussière, mais dans le cadre astronomique, on parle toujours de poussière quand on parle de petits grains solides, et la plupart des grains solides dans l'astronomie, ils sont faits de silica comme le sable sur la plage ou de atomes carbone comme de petits grains de gravite. Mais la plupart des grains, en fait, ils sont comme le sable sur la plage, sauf à une taille beaucoup plus petite que ça.
Alors, ces grains de poussière, vous dites, absorbent et diffusent la lumière.
Oui.
Donc, c'est important.
C'est très important parce qu'en fait, quand on regarde, c'est la première fois qu'on a rendu compte qu'il y a de matière entre les étoiles, que quand on regarde une étoile qui n'est pas très proche, on voit qu'il y a une partie de son lumière qui ne vient pas chez nous. C'est absorbé par la poussière qui est dans le milieu interstellaire. Et ça, c'est une façon d'étudier le milieu interstellaire. Mais c'est pas très direct parce qu'en fait il faut connaître l'étoile qui est derrière et il y a que ce parti le spectre électromagnétique qu'on peut étudier avec. Et là on veut bien étudier l'ensemble du milieu interstellaire et c'est pour ça qu'on veut passer vers l'infrarouge lointain avec Herschel.
Oui, ce que vous m'expliquez c'est qu'en fait c'est quelque chose d'opaque. Le fait qu'il y ait de la poussière entre nous et les étoiles éteint les étoiles derrière, mais c'est pas nécessairement facile à estimer si on ne connaît pas vraiment ce que sont les étoiles réellement derrière. Marc Sauvage.
Le problème, c'est le suivant. Quand on travaille sur l'effet absorbant de la poussière, hein, on collecte une fraction de rayonnement et on chercherait à deviner qu'est-ce qui manque, puisque la poussière a absorbé quelque chose. C'est toujours très compliqué de savoir qu'est-ce qui manque quand tout ce qu'on a, c'est ce qui reste. S'il y a une certaine somme d'argent sur cette table et qu'on me dit « il en manque », c'est très compliqué d'arriver à savoir combien il y en a en tout. Donc on va travailler dans un domaine où ce qu'on collecte, c'est pas ce qui reste après que quelque chose ait été retiré. On va travailler sur ce quelque chose. Et on va travailler non plus cette fois-ci sur l'extinction produite par la poussière, mais l'émission. C'est-à-dire que la poussière absorbe une partie de rayonnement, mais elle le garde pas pour elle. Elle est à l'équilibre thermodynamique et elle va le réémettre. Et en collectant cette partie émise, ben, on voit directement ce qui avait été retiré.
D'autant que la poussière n'absorbe pas la lumière de la même façon si c'est de la lumière bleue ou de la lumière rouge. Là aussi, on a quelque chose de différent. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi ?
Oui, en fait, c'est l'effet de taille de les solides. Quand les graines sont assez petites, ils interagissent d'une façon différemment avec la lumière rouge et avec la lumière bleue. C'est le même effet qui rend le ciel bleu, parce qu'en fait, il y a de petites graines, de petits aérosols dans notre atmosphère, et eux, ils interagissent beaucoup avec la lumière bleue du soleil, et ils font le diffuser vers le sol. Et c'est pour ça qu'on voit le ciel bleu. Et ça, on observe aussi dans l'espace que la lumière d'une étoile bleue est beaucoup plus absorbée que la lumière rouge. Et ça, on a permis d'étudier quelques paramètres, quelques conditions dans le milieu interstellaire. Mais ce n'est pas complet et ce n'est pas direct. Et là, si on arrive à étudier, en fait, comment les graines dans le milieu interstellaire sont chauffées par les étoiles et étudier comment ils le réémis, on peut avoir une mesure directe de tous les grains qui sont dans le milieu interstellaire.
En fait, ce que vous voulez, c'est mesurer directement les grains, c'est-à-dire oui, vraiment accéder à ces choses aussi petites, perdues aussi, un nombre aussi faible et perdues dans l'immensité quand même. Accéder directement aux grains.
Oui, c'est tout à fait ça. On veut le voir directement pour avoir une mesure très directe et pas liée avec de modèles des étoiles qui sont derrière pour comprendre la partie qui manque. Oui, c'est tout à fait ça.
Mais accéder à ces grains à grande distance, pas exclusivement ce qui est proche.
Non, on peut le faire dans le milieu proche, mais avec la sensibilité qu'on va avoir avec Herschel, on peut l'étudier aussi dans les autres galaxies qui sont proches de nous. Et ça nous permet, en fait, d'étudier l'effet de la quantité de poussière dans le milieu interstellaire. Parce qu'on sait que, cependant, quelques galaxies on observe, il y a une grande différence entre la quantité de poussière qui est dans le milieu interstellaire, et on pense que c'est aussi une autre composition de graines. Et là, on peut l'étudier en fonction de où on observe. Et par exemple, on va le faire dans deux galaxies qui sont très proches de nous, le nuage de Magellan, et on va obtenir des mesures qui sont vraiment liées avec les conditions qui sont spéciales pour eux.
Il y aurait des galaxies plus poussiéreuses que d'autres ?
Oui, tout à fait. Notre galaxie, en fait, elle a beaucoup de poussière, et le nuage de Magellan, ils sont moins de métaux, moins d'éléments lourds en général, et beaucoup moins de la poussière dans le milieu interstellaire, mais aussi dans les étoiles même.
Et plus de poussière, ça veut dire qu'il y a plus de, enfin, il y a eu plus de formation de poussière, donc plus d'étoiles qui ont produit des poussières, une activité plus importante au plan stellaire. Qu'est-ce qui fait qu'une galaxie est plus poussiéreuse qu'une autre? On le sait.
En fait, c'est plutôt que notre galaxie, elle a une histoire de formation des étoiles et de formation de poussière qui est plus longue que les autres galaxies. Et c'est drôle de la poussière dedans, c'est vraiment très fondamental, parce que quand on observe la structure d'une galaxie comme les nuages de Magellan, parce que la lumière s'est pas bloquée localement par la poussière dans le milieu interstellaire, la structure de cette galaxie, c'est vraiment différent que notre galaxie. On observe que, par exemple, dans la région de formation d'étoiles, presque toute la lumière des étoiles reste dans un cocon un peu bloqué, et on observe qu'un petit peu de la lumière qui sort. Et dans les autres galaxies, avec beaucoup moins de solides dans le milieu interstellaire, on voit qu'en fait, même la région de formation d'étoiles, il arrive à illuminer des endroits beaucoup plus loin que ça.
Donc ça veut dire qu'il y a de la poussière partout, là où naissent les étoiles, mais là où ne naissent pas les étoiles aussi. Donc il faut essayer de comprendre comment elles se comportent, presque là où il ne se passe rien.
En fait, le premier essai, c'est vraiment d'avoir une mesure directement. Et après, on passe pour étudier les différences entre différentes régions. Mais c'est vrai que il y a de la poussière partout, et c'est pas du tout sûr que la façon qu'il interagit, c'est pareil partout. On pense que dans les régions les plus denses, les nuages moléculaires, où se forment les étoiles, il y a des processus qui changent les détails. Mais ça, c'est la prochaine étape. Première étape, c'est vraiment de détecter directement la lumière qui sort de la poussière même.
Alors, on sent que les conditions, en particulier de température, hein, sont prépondérantes, parce que entre l'endroit où la poussière est chauffée, soit par la présence d'un trou noir, soit par des étoiles qui naissent, et les endroits où finalement il fait très froid, moins 250, le comportement de ces nuages de poussière, ou en tout cas de ces poussières dans l'espace interstellaire, est différent et peut déterminer une évolution différente localement.
Oui, on a quelques indices que ça change vraiment et fondamentalement en fonction des conditions. Mais pour le moment, c'est quelques indices. Et comme on n'a pas cette fenêtre dans la submillimétrique pour étudier ça, on ne peut pas décider quels sont les effets qui jouent. Par exemple, il y a quelques endroits dans notre galaxie qui sont très, très, très cachés. Il n'y a pas des étoiles dedans, il n'y a pas des étoiles proches. Et on croit que la poussière là, ils se collent ensemble. Ils créent des structures beaucoup plus complexes, et un peu comme, comme de petits fractales. Mais ça, c'est juste une hypothèse pour le moment, parce qu'en fait, on n'a pas de vraies données pour dire que oui, c'est cette façon que ça marche. Ça aussi, ça peut être d'une autre façon, que ça reste si froid qu'il y a des molécules qui s'attachent sur la surface de graines, par exemple.
Même les instruments de radioastronomie millimétrique, je pense à Grenoble ou à des endroits comme ça, n'observent pas la poussière dans ces états-là.
Cet effet-là, ça joue vraiment dans le submillimétrique. C'est vraiment là qu'on observe ce type de différence. Parce qu'en fait, c'est juste la longueur d'onde, la couleur de la lumière, qui est à la même taille de graines qu'on veut mesurer. Et si les graines commencent à grandir vers cette taille de submillimétrique, ça veut dire que ça devient un grain d'un peu près un millimètre, on observe un change important dans le submillimétrique, et pas dans le radio, et pas dans l'optique. Et c'est pour ça que c'est vraiment important, parce que c'est exactement cet échantillon où ça joue.
La bonne lumière pour le bon grain de poussière.
Exactement,
en fait.
C'est ça.
Vous expliquiez qu'on allait aussi aller voir du côté des galaxies lointaines. On va pouvoir, comme on observe, je dirais, les formations d'étoiles, le taux de formation d'étoiles dans l'univers, regarder aussi la présence, la densité de poussière dans les galaxies lointaines.
Oui, mais pas dans ce détail-là. On peut pas voir les détails dans les galaxies plus loin. Et comme ça, on n'arrive pas à directement séparer les différentes faces, les différentes parties d'une galaxie. Mais oui, c'est mélangé. Et il y a différentes échelles. Et tout à fait, ça doit être compatible. Mais on commence avec les étapes plus proches pour avoir les détails. Et ça nous va aider à comprendre aussi les galaxies qui sont plus loin.
Marc Sauvage.
Oui, on parlait dans un podcast précédent des gens qui vont regarder l'évolution du taux de formation d'étoiles en fonction de l'âge des galaxies ou de l'âge de l'univers. Ils le font en mesurant la quantité d'énergie émise dans l'infrarouge submillimétrique et en la convertissant en un taux de formation stellaire sur la base de recettes ou de théories. Et c'est exactement les mêmes observations dont on parle ici, c'est-à-dire les gens qui sont intéressés à mesurer un taux de formation d'étoiles vont dire, bon, la poussière est ce qu'elle est, elle a des propriétés que je connais, qui me permettent de calculer quelle est son émission, quelle est sa réponse à un certain type de rayonnement, je mesure la réponse, je connais donc la quantité de rayonnement à laquelle elle est exposée. Et les gens comme Sacha ou comme moi qui sont intéressés à comprendre la poussière elle-même, c'est-à-dire le vecteur même de l'information, vont prendre le même rayonnement et se poser des questions plutôt du genre, bon, est-ce qu'il s'agit bien de la même poussière? Est-ce qu'il s'agit bien du même corps avec les mêmes propriétés? Est-ce que j'ai pas dans ce spectre-là des indications que non, il y a des modifications fondamentales de la nature même du médiateur, là, du grain de poussière, dans sa composition chimique parce que l'univers est plus jeune, qui font que le spectre que je mesure, il n'a pas la même origine véritablement. Donc c'est, en fait, on travaille comme ça de concert, entre des gens qui vont utiliser un rayonnement, en l'occurrence infrarouge millimétrique, pour l'information qu'il est censé transmettre, et des gens qui en même temps vont travailler sur ce même rayonnement pour essayer de comprendre si les hypothèses qu'on fait sur la façon dont l'information est transmise sont bien correctes. Et c'est la science. Quand on tombe sur une contradiction quelque part, on essaie de trouver une solution en modifiant un paramètre. Donc c'est typiquement c'est le même genre, c'est les mêmes études, mais envisagées avec une perspective légèrement différente.
Quand on parle de science, on peut remarquer que votre objet d'étude, Sacha, c'est Grand Nuage de Magellan. C'est pas une galaxie comme banale, le Grand Nuage de Magellan. Je dirais même que c'est une galaxie un peu atypique. Pourquoi elle vous intéresse particulièrement dans ce type d'étude, par exemple?
En fait, les nuages de Magellan, ils sont importants parce qu'ils sont proches. Ce sont des laboratoires parfaits pour faire des expériences comme ça, parce qu'ils sont proches et on voit beaucoup de détails. Mais surtout, on pense que ce type de galaxie, on a eu beaucoup dans l'histoire de l'univers. Et on croit qu'en fait, il y a de effets dans les nuages de Magellan à ce moment-là qu'on peut observer, qui sont de prototypes ce qui est passé dans le passé de l'univers.
C'est un bon modèle.
Pas pour tout, mais pour beaucoup. Il y a sûrement des autres galaxies qui sont pas du tout comme le nuage de Magellan, mais une des façons de construire les galaxies dans l'histoire de l'univers, c'est de prendre des petits galaxies comme le nuage de Magellan et les mettre ensemble. C'est un des modèles standards qu'on a maintenant pour construire les galaxies dans notre... Et ça veut dire qu'ils sont importants. En fait, ils sont des blocs de base pour construire l'univers qu'on observe.
Et c'est plus sympa. Hein. C'est une galaxie qu'on peut voir dans l'hémisphère sud, donc c'est plus agréable à l'observer.
Oui, ils sont aussi super jolis. C'est vrai. Non, mais c'est ça aussi. Il ne faut pas... oubliez que les belles images, ils sont importants aussi.
Merci messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment pour un prochain épisode.